parole que tu nous donnes. Et Seigneur, nous nous réjouissons dans ta présence. Nous mettons nos cœurs à l'écoute, au diapason du Saint-Esprit. Et Seigneur, merci pour ta bénédiction, ton onction sur Jean-Luc. Et merci pour tout ce que tu as nous donné pour chacune d'entre nous.
Merci.
Voilà. Bonjour à toutes. Je suis venu avec Elisabeth, ma femme, depuis Marseille, où nous habitons depuis 14 ans, c'est ça? Un petit peu plus. Et on se réjouit d'être avec vous aujourd'hui, on se réjouit d'être avec Anne, notre cousine, et comme certaines d'entre vous. C'est vraiment... En tout cas, c'est plus qu'une joie polie. J'avais vraiment... Non, mais je vous dis, c'est parce que je ne vais pas vous dire que je suis triste d'être au milieu de vous. Ouais. Mais c'est une vraie joie que je sens intérieurement, c'est ça que je vais vous expliquer, que je sentais ce matin en particulier, parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui de... Comment dire? D'important à cause d'enjeux spirituels qui fait que ça veut dire que Dieu a besoin de vous vous n'êtes pas messagère pour rien parce qu'il paraît que les messagères sont une grande armée. Donc Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire qu'est-ce que Dieu va faire. D'accord? En tout cas de ce que j'ai compris qu'il va faire. Il va vous apporter une délivrance pour certains d'entre vous de certains jougs. Et deuxièmement, il va vous lever comme une armée. Voilà, c'est les deux choses que j'ai. Enfin, je crois que Dieu veut faire d'une manière ou d'une autre. On verra comment. Et ce matin, je suis un ambassadeur, mais un ambassadeur particulier. Je viens du monde des hommes. Je parle des messieurs, vous voyez, et je viens vers vous, mesdames, en tant qu'ambassadeur. Pour vous expliquer certaines choses, d'accord? Pas pour vous faire découvrir le monde des hommes, vous le connaissez bien, je pense qu'il n'y a pas, mais pour vous dire qui vous êtes et comment Dieu vous voit et ce qu'il veut faire avec vous, d'accord? Donc, vous savez, je prends un exemple, vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine qui avait quelques problèmes dans sa vie. Quelques petits problèmes, d'accord? Il y avait 12 apôtres avec Jésus, et ils arrivent à Samarie. Vous savez qu'un apôtre, en principe, son job, c'est d'implanter des églises, d'accord? Donc, ils sont là, et eux se préoccupent donc d'aller au McDonald's pour aller chercher à manger, et pendant ce temps, cette femme, qui avait quand même pas mal de problèmes, va implanter une église à Samarie. C'est pas mal, vous voyez? Donc, je suis un ambassadeur pour vous dire... Quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir ou avoir eu, Dieu va faire avec vous des choses que 12 apôtres n'arriveront jamais à faire. D'accord? Je vous encourage. Voilà. Ça, c'était pour la présentation. Et maintenant, avant d'entrer dans le sujet des quatre, ce qu'on appelle les quatre persévérances, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et la suite de ce verset de Actes 2, 42. Ce que j'aurais à cœur, c'est de vous lire quelques passages de l'Épître aux Éphésiens par rapport à notre identité en Christ, parce que, au fait, quand on parle de l'Église, on parle d'une réalité spirituelle, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Vous voyez? Et là, comme dit Paul dans Galates 3:28, je crois, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus esclave libre. On est dans d'une réalité spirituelle, et c'est très important de nous en souvenir, et donc on va s'en rappeler ensemble ce matin. Je vous lis juste quelques passages dans les Éphésiens, sans les commenter, mais c'est juste pour vous, comment dire, c'est juste pour nous, c'est pour nous encourager mutuellement, d'accord? Et juste pour vous dire aussi que Elisabeth et moi, on vient aussi pour apprendre. Et vous avez des choses à nous apprendre. D'accord? Je vous expliquerai pourquoi aussi tout à l'heure. Donc on est ensemble comme une équipe et on va travailler ensemble pour être bien armés et aller au combat. N'ayez pas peur. Donc Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, on est dans le premier chapitre, verset 15 de Éphésiens, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 6, les païens ont un même héritage, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes, au-dessus de la Haute-Savoie et Genève, dans ma version, hein, c'est une version spéciale, connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Et puis, au verset 10, j'ai oublié, revenez dans chapitre 2, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangères, vous êtes des messagères, hein, ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Et puis, on s'arrête là. C'est pas mal, non? Ça va? Est-ce que vous comprenez un peu plus qui vous êtes ce matin? Vous suivez?
Oui.
Vous êtes dedans? Ok? C'est pas juste des textes qu'on lit, qu'on étudie, c'est une réalité spirituelle. Parfois, la parole de Dieu, il suffit de la lire, de l'entendre, vous la lisez avec votre bouche, vous la proclamez, vous n'avez pas besoin d'exégèse, de théologie en somme. Vous avez la parole. Et vous la proclamez. C'est pas compliqué. D'accord? Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Il y a une puissance surabondante de Dieu en ma faveur dans le combat que je mène. Ok, donc je ne vais pas commencer à glorifier l'ennemi en racontant tout ce que fait l'ennemi, parce que la puissance, le ciel qui est avec moi, est largement, largement supérieure à tout ce que l'ennemi essaie de faire.
Amen.
Ce que lui, il essaie de faire, c'est une pantomime, mais ce que Dieu fait, c'est la réalité, et ça marche. Alléluia. Donc, je voulais juste commencer par vous encourager. Et la pensée que j'avais, en plus des quatre persévérances, pour une forme d'introduction, c'est que là, je parle maintenant de notre expérience de tous les jours. J'ai remarqué une chose dans le corps de Christ en général. Et moi, le premier, je tombe dans ce piège. C'est que vous avez des natures, des caractères différents. Et vous avez dans le corps de Christ des personnes qui ont une petite révélation comme ça, et qui en font un truc énorme, qui sont très persuasifs, qui arrivent et qui vont vous dire maintenant, moi je vous expliquer comment faut faire. Et ils vous parlent comme si vous étiez né de la dernière pluie, vous ouvrez des grands yeux, ils font des grands gestes, ils font des grandes, etc. Et avec la petite révélation qu'ils ont, ils vous obligent à entrer dans tout un truc. Vous avez remarqué, ça vous est déjà arrivé ça? Et on est là, et on est impressionné, on se dit, oh, quelle onction. C'est extraordinaire. En plus, ils viennent des États-Unis, donc ça doit être encore mieux, etc. Je caricature, hein. J'ai rien contre les Américains, c'est des gens extraordinaires, mais c'est juste pour vous dire. Mais, et puis, finalement, au bout de 3 mois, ou dans 6 mois, il y aura une autre mode qui va arriver, vous allez voir, ça va être un autre truc. Et puis après, alors, avant, fallait guérir les malades en la posant les mains. Maintenant, il faut guérir les malades en mettant juste les 2 doigts, puis ensuite, ce sera les 3 doigts. Et puis, il paraît d'ailleurs, j'ai entendu, récemment, que dans les pays de l'Est, il y a eu tout un schisme chez les orthodoxes, parce qu'il y en a qui faisaient le signe de croix avec 2 doigts, et d'autres qui faisaient le signe de croix avec 3 doigts, et ça a conduit à tout un schisme. Vous voyez? Et donc, bon, c'était à l'époque du Moyen-Âge, hein, tout ça, mais bien sûr, aujourd'hui, on est beaucoup plus intelligent que ça. Mais néanmoins, dans nos milieux, si vous voulez, évangéliques ou autres, ou enfin, appelez-les comme vous voulez, enfin, intérieurs, je sais qu'il y a en merde. Mais on a des fois ce genre de choses, vous voyez? Et ce que vous oubliez, ou ce que j'oublie à ce moment-là, c'est que moi aussi, j'ai une révélation. Moi aussi, j'ai rencontré le Seigneur. D'accord? Moi aussi, je représente quelque chose dans le monde spirituel. Et à force de se faire taper dessus par des gens qui vous disent « Mais t'as rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire », on est comme des... L'Église devient une crèche, et puis tous ces grands ministères sont les puéricultrices de l'Église. Voyez. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant. Je voudrais vous dire, ici, je m'adresse à des femmes de Dieu. OK? Et je ne dis pas pour la forme. Encore une fois, ce n'est pas du tout poliment que je dis. On a dit ce matin qu'on allait dire la vérité. Vous êtes des femmes de Dieu. Vous avez une autorité spirituelle. Vous avez un appel. Vous avez une influence beaucoup plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous faites des choses dans la prière. Et grâce à votre influence, que 12 apôtres, encore une fois, et je veux dire, c'est bien de respecter nos autorités spirituelles et c'est bien d'être soumis les uns aux autres. Et je suis pas en train de vous dire que, vous voyez, je parle pas de cette action, et que même 12 apôtres ne pourraient pas faire, parce que c'est Dieu qui vous l'a confié.
Amen.
Alléluia.
Amen.
C'est la vérité. Je vous donne un exemple que j'ai vécu cette semaine. Donc, je vais essayer de... Est-ce que c'est enregistré, notre affaire ou...
Mais je peux mettre en pause si c'est confidentiel.
Oui. Quelque part, je préfère.
Oui. Ouais.
L'Église, enfin, c'est plus que la survie, la vie de l'Église, sa croissance, son autorité par rapport aux puissances de ténèbres qui l'entourent, sa position spirituelle dépend de femmes comme vous. OK? Parce que le pasteur... Les anciens, ils ont d'autres fonctions, ils sont souvent débordés par toutes sortes de combats qu'ils doivent mener, mais ils n'ont pas ce recul, si vous préférez, à moins d'aller passer une semaine en jeûne et la prière, ils n'arriveront pas. Vous voyez? Et donc, Dieu va vous confier des tâches qui sont peut-être pas très visibles, mais qui ont une influence énorme pour... fait reculer les ténèbres. Et donc, tout à coup, j'ai été mis en présence, là, à Marseille, de généraux dans la prière, vous voyez, qui n'ont ni les galons, ni les casquettes, qui sont en cheveux blancs et en robe, ou en jupe, mais qui, mon pantalon, si vous préférez, ça m'est égal, mais qui ont une autorité spirituelle. Vous voyez. Et quelque part, c'est comme ça que l'Église fonctionne, vous voyez, dans la réalité. C'est pour ça que Paul dit « je veux que les hommes prient ». Vous avez remarqué ? Il ne dit pas « je veux que les femmes prient ». Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que les femmes prient. Il n'y a pas besoin de le dire. Mais il a besoin de le dire pour les hommes. Je vous ai dit que vous êtes un ambassadeur, donc je vous donne quelques secrets diplomatiques. D'accord ? Voilà. Donc, ne soyez pas comment dire, ne sous-estimez pas votre influence, votre autorité et votre rôle. Ne le surestimez pas non plus, parce qu'on est soumis les uns aux autres. voyez. Et quand on reste, si vous voulez, ceux qui font, on dit à Marseille, tout un pataquès avec le combat spirituel, qui commencent à vous dire qu'il y a des principautés, il y a des machins, et tout ça, et puis qui font tout un... Et puis il faut faire de la cartographie spirituelle, et puis... C'est très bien. Mais je préfère parfois la petite dame que j'ai rencontrée mercredi, qui a vu la principauté de principauté, qui l'a vue, et simplement à cause de sa présence, je préfère des gens comme ça qui prient, peut-être avec, qui n'ont peut-être pas tout le vocabulaire qu'il faut, etc., mais les nutrants, vous voyez, que ceux qui font des grandes choses, et puis finalement, on a l'impression qu'on se dit, mais où est le résultat, vous voyez, enfin, l'un et l'autre peuvent être utiles, mais, donc, faut pas ni surestimer, ni sous-estimer qui on est. Vous comprenez? Il faut juste être là où Dieu nous demande. Et dans le combat spirituel, la discrétion est de rigueur. La discrétion est de... C'est pour ça que Dieu préfère parfois la petite dame qui passe inaperçue. Parce que c'est un combat stratégique et c'est comme dans les histoires d'espionnage et de contre-espionnage que nous, les hommes, on aime bien, pour ça que... Mais c'est ça l'histoire. Et d'ailleurs, dans l'histoire des guerres, il y a souvent des femmes qui ont joué des rôles très importants dans l'espionnage parce que personne ne pouvait se douter que en fait, en réalité, cette femme-là, elle tenait les choses, vous voyez, en termes d'informations. Vous avez des informations qu'il ne faut pas divulguer, que vous avez reçues dans la prière. Vous avez des informations que vous ne devez pas divulguer. Et vous avez cette capacité d'influence, et vous tenez ces informations, d'accord, dans la prière, et l'ennemi est déstabilisé par votre réseau là. Est-ce que vous suivez toujours? Maintenant, il y a un travail à faire. On n'est qu'au début de la libération de, vous savez, à la fin de la 39-45, la France a été libérée. Et il y a plein d'avenues dans toutes les villes de France qui s'appellent avenues de la libération, qui font allusion historiquement à ce moment de la libération de la France, ville par ville, du joug de l'époque qui venait d'Allemagne, des nazis, etc. Vous faites partie de cette armée de libération. Alléluia.
Amen.
Et Dieu n'a pas dit son dernier mot dans notre région, en France et dans la Suisse voisine. Il n'a pas dit son dernier mot. Donc, il y a un travail à faire et c'est le moment que vous récupériez, que vous réalisiez une fois pour toutes qui vous êtes en Christ. En restant dans cette discrétion du combat spirituel qui fait que on va pas en faire, vous voyez, je veux dire, vous allez rester discrète, mais intérieurement, sur ces textes d'Éphésiens et sur la base de la révélation que vous avez reçue et que vous savez avoir, eh bien, vous allez agir ensemble de manière coordonnée et efficace. Est-ce que jusque-là, vous êtes partante?
Oui.
C'est bon?
C'est bon.
OK. Très bien. Peut-être que certains d'entre vous se disent, non, mais moi, c'est pas possible, si tu savais les problèmes que j'ai, etc. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Pourquoi je vous dis que ça fait partie du jeu? Parce que la stratégie de Dieu, c'est une stratégie de persévérance. On parle des cas de persévérance. La stratégie de Dieu est une stratégie de persévérance. Pourquoi la persévérance? C'est une des grandes questions qu'on se pose au début de notre vie chrétienne. Alors, Seigneur, tu me dis que la victoire est acquise à la croix, que l'ennemi est vaincu, que Satan est sous nos pieds, etc., etc. Mais maintenant, dans le quotidien, je vois pas ça. Ça marche pas. Je suis écrasé par les problèmes. Ça peut être dans toutes sortes de domaines, maladies, relationnelles, famille, finances, enfin, le patron, etc., le travail, mes enfants. Il y a rien qui marche. Donc d'un côté, tu me dis que tout est accompli, tout est bon, c'est la victoire. Et quand je regarde dans ma vie de tous les jours, c'est tout l'inverse. Vous voyez? Et j'aimerais, par rapport à ça, vous lire un texte dans Hébreux 11. Hébreux 11. Donc là, on est, je vous explique le mot persévérance. de acte 4, vous inquiétez pas, de acte 2. On arrivera à acte 2, 42, hein, c'est, on est juste dans l'introduction. Hébreux 11, oui. Verset 8. On va prendre un petit peu l'histoire d'Abraham. Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Je pense que vous, comme moi, quand on a mis notre confiance en Jésus-Christ, on ne savait pas où on allait. Et Dieu ne vous dit pas toujours tout ce que vous allez traverser. Parce que si on le savait, on serait peut-être moins enthousiaste. D'accord? Pour vous qui avez un peu traversé deux, trois épreuves. Mais il est parti, il a obéi. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise. Donc, la terre promise, c'est tout est accompli, Satan est sous nos pieds, la victoire est acquise à la croix. C'est ça la terre promise pour nous. D'accord? Donc il va s'établir dans la terre promise, voyons, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Donc, vous vivez avec la certitude intérieure, parce que la foi, c'est une certitude que Dieu dit vrai. C'est ça la foi. C'est pas un sentiment à la fois, c'est pas une impression vague. Non, non, c'est une certitude que Dieu l'a dit et qu'il va le faire. Donc Abraham, Isaac et Jacob avaient la certitude de la promesse de Dieu. Et pourtant, dans ce pays qui était à eux du point de vue de la promesse, ils étaient étrangers. C'est pour ça que vous vous sentez étrangère, vous les messagères. J'aime bien faire la. Ok. Vous n'êtes pas seulement messagère, vous êtes étrangère dans ce territoire de la promesse. Vous dites, mais je ne comprends pas. Pourtant, j'ai la promesse de Dieu, il n'y a rien qui marche. Donc, je me sens étranger. Je me sens étrangère. J'ai l'impression de ne pas être comprise. J'ai l'impression d'être un alien, comme disent les jeunes. Je suis un alien dans ce monde, d'accord? Mon mari ne comprend pas, mes enfants ne comprennent pas, mon entourage ne comprend pas. Je suis une alien. D'accord? Et quand je leur dis ce que j'ai dans mon cœur, ils me prennent pour une folle. Vous avez vécu ça?
Oui.
C'est Abraham. C'est Abraham. C'est son pays, puisqu'il l'a, il a reçu de Dieu, et il est étranger dans ce pays. Personne dans ce pays n'imagine, ne pense, ne croit que Abraham, c'est l'héritier de ce pays. Vous comprenez? Parce que c'est absolument impensable. Alors, il habite, à cause de ça, il est sous une tente. Donc, il y a une précarité de la vie chrétienne. Il y a une précarité de la vie chrétienne. Être sous tente, c'est précaire. Hein, aller voir les camps, enfin, les camps de réfugiés en France, en ce sens qu'ils sont, c'est pas vraiment des camps de réfugiés, mais ils sont sous tente quand même. Et puis, nous, on avait été visités à Calais, entre Calais et Dunkerque, là, les camps. C'est précaire. C'est précaire. Et on est comme ça. Spirituellement parlant, on est des pèlerins, on est des immigrés, on est des sans-papiers sur cette terre. Et pourtant, on va hériter de cette terre. On va en hériter. Oui. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Alléluia. Donc, Abraham, il est sous tente dans un pays étranger. Ainsi qu'Isaac et Jacob. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Il leur reste à persévérer dans la promesse. D'accord? Je sais que cette terre m'appartiendra. Appartiendra à mes descendants. Pour le moment, je suis étranger. Pour le moment, je suis sous tente. Mais je suis chez moi, quand même. Alléluia. Donc, je persévère. Il y a des épreuves. Il y a des contestations. Il y a de la bagarre. Et j'ai la promesse. Alléluia. Et donc, vous allez voir que dans l'histoire d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, leur influence grandit et les gens qui sont autour ne comprennent pas ces espèces de nomades, semi-nomades, semi-sédentaires, là, ne comprennent pas qui sont ces gens-là, ils ne comprennent pas pourquoi ils réussissent, ils ne comprennent pas pourquoi il y a cette bénédiction tout le temps, ils ne comprennent pas pourquoi vous, mes sœurs, malgré toutes les épreuves, vous êtes joyeuses, Dieu quand même répond à votre prière, finalement vous passez par-dessus toutes les épreuves, vous êtes des espèces d'amphibies spirituelles dans ce monde, et ils ne comprennent pas. Elle ne prend jamais l'eau. Comment elle fait avec toutes ces épreuves? Vous voyez? C'est parce que vous avez la promesse. Vous êtes du monde, et vous n'êtes pas. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous voyez? Vous êtes amphibie spirituellement. Vous avez une force surnaturelle qui habite en vous. Vous avez la surabondante puissance de sa gloire, du ciel. Vous avez le ciel qui est avec vous. Vous avez des armées célestes qui sont là. Et pourtant, on est, comme disent les théologiens, dans le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. D'accord? Donc, en même temps, c'est pas Monsieur Macron qui l'a inventé, c'est le Nouveau Testament. On est en même temps vainqueur et dans l'épreuve. Mais il est fini. Et c'est encore pas là. C'est là et c'est encore pas là. Parce que la victoire finale, si vous préférez, elle arrivera quand Jésus-Christ reviendra poser son pied sur le mont des Oliviers. Et là, ce règne de justice de paix sera installé sur la terre. Et là, on verra. D'accord? En attendant, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. D'accord? Heureux ceux qui ont persévéré. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans, voyons voir. Je vais vous dire dans toutes sortes de choses importantes. Dans la communion fraternelle, en fait, le mot communion fraternelle, c'est une longue phrase pour traduire un seul mot en grec, c'est koinonia, qui veut dire mettre en commun ou être partenaire dans un but commun. Par exemple, admettons que vous voulez monter une affaire, un business. Comment vous appelez?
Évidemment.
Elina.
Elina.
Elina. Elina, c'est une femme d'affaires, on va dire. D'accord. Et puis ma femme Elisabeth, vous dites, OK, on va faire un business ensemble. Et donc, t'as combien? Bon, moi, j'ai 5 000 sur mon compte. Moi, j'ai 3 000. On met ça ensemble. On met en commun. Et on investit. Et puis, on achète la photocopieuse, l'ordinateur, etc. Et puis, on lance le business. Je prends un exemple. Donc, vous avez un but commun. C'est quoi? C'est de vendre des bougies, c'est de, je sais pas quoi, d'accord? Mais il y a une mise de fond au départ. C'est ça la koinonia. C'est un partenariat réel, concret, qui touche les finances, qui touche la souffrance. On souffre ensemble, on combat ensemble, on investit ensemble, on prend du temps ensemble, on prie ensemble. La koinonia, c'est ça. C'est pas le petit café, même si c'est sympathique, qu'on prend ensemble. Nous, la communion fraternelle, c'est le petit café à la fin de la réunion, vous voyez, je veux dire, avec le croissant. Là, c'est vraiment une koinonia de luxe, mais je veux dire, oui, ça en fait partie, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est important, c'est la mise en commun, c'est l'investissement, c'est le combat. Quand vous mettez à prier ensemble, que ce soit sur Zoom ou quand vous allez sur place dans votre église, vous demandez les clés et que vous commencez à prier, d'accord? Là, vous êtes dans la communion. Vous combattez ensemble. Et puis, persévérer dans quoi? Dans la fraction du pain. Il s'agit soit de l'Eucharistie, si vous voulez, d'un milieu plutôt catholique, soit de la Sainte Cène, si vous voulez, d'un milieu plutôt protestant. Enfin, appelez-le comme vous voulez, mais c'est le pain et le vin, ici. Et donc, il s'agit d'un engagement par rapport à la mort et à la résurrection. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Et j'appartiens à Jésus-Christ et j'ai fait alliance avec Dieu. Je me suis engagé avec Jésus-Christ. Je lui ai donné ma vie. D'accord? C'est un repas d'alliance. On se rappelle notre engagement parce qu'on est parti dans ce pays qu'on connaissait pas et on se rappelle qu'on s'est engagé avec lui. Donc, Abraham régulièrement ou Isaac ou Jacob, ils construisaient un autel, ils offraient un sacrifice et ils se rappelaient, je m'appartiens plus à moi-même. D'accord? Ma vie est un sacrifice. Et puis ensuite, il persévérait dans les prières. Ça, c'est intéressant. OK? Ça, c'est intéressant, la prière. Comme je n'ai pas de timing, je
10h31.
Et 10h31, j'ai commencé à quelle heure? À 10h? 10h. Ouais, 10h31. D'accord. Ça va, je ne suis pas trop. On fait encore un quart d'heure? Oui. On fait une petite pause, puis ensuite on fait une session, ça vous va comme ça?
Oui.
Ok. Vous me dites, hein.
Mais... Oui.
Et puis si vous avez, à la pause, vous dites, oui, j'ai des questions, même là, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. Donc, il persévérait dans toutes ces choses. Je vous parlais de la prière. Et j'aimerais vous parler maintenant de Isaac. Isaac. Parce que donc, Abraham, Isaac sont un modèle de l'Église qui persévère dans les promesses. Vous avez compris pourquoi. D'accord? Donc, c'est un tout petit peu ce que je vais vous dire. Moi, j'aime beaucoup l'Ancien Testament parce que c'est comme un livre d'images où vous comprenez l'histoire, la grande histoire de Dieu. Okay? Et comment ça fonctionne au niveau de la foi. C'est très concret, l'Ancien Testament. Donc, ça nous aide à être un peu concret. Parce que sinon, des fois, vous savez, on est tellement spirituel qu'on sait plus trop. Avec Abraham et Isaac, c'était très concret. Hein, il fallait. Quand il s'agissait d'offrir Isaac sur l'autel, c'était plutôt concret. Voilà. Donc on va dans Genèse 26, et on a là, dans un il se trouve c'est bien à peu près dans le même chapitre, donc c'est intéressant. C'est un petit peu long comme chapitre, mais on va quand même prendre le temps de le lire, parce que, si vous voulez, il faut prendre le temps avec la parole de Dieu, très important. Il y eut une famine dans le pays. Donc ça, c'est le début de Genèse 26. Excusez-moi. Non, ne t'inquiète pas du tout. Tu fais partie des messagères de bonne nouvelle. Allez. Donc, on lit ce passage. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guéra. Donc, il habite dans ce pays étranger, Isaac. D'accord? Il est au sud d'Israël, enfin, du pays de Canaan, mais ça fait partie du pays de la promesse, même s'il est un peu au sud, ça fait encore partie du pays de la promesse. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi, je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi Isaac resta à Guérar. Donc, dans cette première partie du chapitre, Isaac est tenté d'aller en Égypte parce qu'il y a la famine là où il habite et il doit savoir, en tant que nomade, il doit trouver de l'herbe un peu verte pour ses troupeaux et il va là où l'herbe est la plus verte. Vous connaissez l'histoire. C'est ce que Abraham avait fait au chapitre 13 et ça avait un peu tourné mal pour Sarah avec le pharaon. Enfin, Dieu finalement a sauvé in extremis l'affaire. Et puis Isaac est parti pour faire le même coup que son père. Et il y a des choses qui se répètent comme ça dans les générations. Et donc, Dieu le retient, dit stop, tu vas pas en Égypte. Tu vas pas en Égypte. Il y a une famine, il y a une pression, voyez. Et souvent, ces famines-là, ces épreuves qu'on peut vivre dans nos vies, c'est une forme de test pour la foi. Est-ce que je vais céder et aller en Égypte ou est-ce que je vais rester sur le terrain de la promesse? Oui. C'est très important. Vous avez par exemple l'histoire de Ruth, la Moabite, mais sa belle-mère Naomi. Élimélec et Naomi, dans le livre de Ruth, ils sont à Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Il y a une famine. Ils quittent la maison du pain pour aller chercher ailleurs, dans le pays de Moab. Et là, c'est la catastrophe. Vous voyez, ne quittez pas la maison du pain, même s'il y a plus de pain. Restez sur le terrain de la promesse, et Dieu va vous bénir. Bon, après, Dieu peut nous ramener aussi, c'est ça qui est merveilleux. Parce que Dieu est Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance. Donc, ne vous laissez pas accuser par l'ennemi quand « Ah oui, moi, j'ai pas fait. » Ben oui, moi, bon. Qui a tout fait jusqu'ici? Vous avez la main? Donc, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Voilà ce que dit Dieu. Et sur la base de la promesse que j'ai faite à Abraham, dit Dieu à Isaac, j'ai fait un serment, je tiendrai ma parole, ne te fais pas de soucis. La famine, pour toi, ne change rien. Et vous allez voir dans la suite que Isaac va semer dans le pays, en pleine famine, il va récolter au centuple, d'accord? Il va creuser des puits, il va avoir de l'eau. Enfin, c'est, il n'y a pas de famine. Quelqu'un a dit, c'est la fin de l'abondance. Récemment, c'est un mot de passe qu'on vous a donné là. Eh bien, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, c'est pour vous, les filles d'Isaac, c'est le début de l'abondance. D'accord? C'est le début de l'abondance. Parce qu'on vient de lire dans Éphésiens qu'il y a une surabondance dans le royaume. Donc c'est la fin de l'abondance pour ceux qui ne connaissent pas le royaume. D'accord? Et pour Isaac, c'est le début de l'abondance. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et cette abondance, elle n'est pas que, vous voyez, je veux dire, quelque part dans l'air, là, mais elle va se traduire sur la terre par une vraie abondance, une vraie grâce de Dieu, une multiplication. Vous voyez? Le corps de Christ et cette région de la Haute-Savoie est appelé à être un refuge pour beaucoup en France. Vous voyez? Et donc, c'est le moment de se lever et d'avoir votre réseau et de prier, de, vous voyez? Et de vous donner comme mot de passe, c'est le début de l'abondance. Bien sûr, n'en parlez pas trop à voix haute. Pour vous, c'est vrai. D'accord? Et on va nourrir un grand peuple. Cette pression de la famine, elle est, comment dire, elle est doublée d'une deuxième pression. On va parler de stress. Donc. Allez voir, ça va être très stressant cette chose. Verset 7. Non, c'est notre fille qui est stressante, mais cette journée va être une journée de rafraîchissement, comme l'a dit Sylvie. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, ils disaient « c'est ma sœur ». Ils craignaient de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « c'est donc ta femme ». Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Abimélec lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupable. Alors, Abimélec fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes, celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. En cette histoire, ça nous paraît un peu, rocambolesque. Point de vue culturel, vous voyez, on est un peu dans une autre culture, mais ça ne veut pas dire que la civilisation européenne est tellement belle, tellement pure, vous ne faites pas d'illusion, hein, d'accord? On a aussi nos travers, simplement que là, c'est un petit peu plus visible, que chez nous, c'est un peu plus caché, mais c'est aussi grave, sinon pire. Mais je referme la parenthèse, parce que c'est facile hein, d'accuser l'Ancien Testament, en disant oui, l'Ancien Testament, il faut déjà regarder ce qui bout dans notre assiette, et après on verra. Une casserole. Donc, maintenant, il y a une pression sur Isaac. Oui. Il a peur de mourir parce qu'il est étranger. Quand la Bible, on est étranger, c'est que vraiment, il est en danger de mort. Et comme il connaît les traditions, enfin, la manière de vivre et de faire de ces païens chez qui il vit, eh bien, il a peur pour sa peau. OK? Donc, en plus de la famine, il y a cette pression culturelle autour de lui. Et j'aimerais vous dire, au cas où vous ne le sauriez pas, mais vous savez mieux que moi, il y a une pression culturelle. Vous êtes, si vous voulez, en bref, Rebecca, vous êtes des Rebecca. Aujourd'hui, vous serez plein de choses. Vous êtes des messagères, vous êtes des étrangères, vous êtes des Rebecca. Vous serez des Gaëlles tout à l'heure, mais on y va par étapes. Vous êtes des Rebecca, d'accord? Pourquoi? Parce que Rebecca, comme Rachel et Léa, c'est des femmes qui ont bâti un peuple. Elles ont construit un peuple. Et l'appel précis, je vous ai expliqué que j'étais un ambassadeur, l'appel précis d'une femme en tant qu'épouse et mère, c'est de construire un peuple. Vous construisez une culture familiale. C'est vous qui donnez le ton. Vous voyez? C'est vous qui mettez en place l'atmosphère. C'est votre regard. Quand vous regardez l'enfant, un simple regard de maman suffit, il s'arrête net. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une influence. Vous n'avez même pas besoin de parler. Nous, les hommes, il faut qu'on crie, qu'on fasse la grosse voix, qu'on fasse un cinéma. Mais vous, c'est pas la peine. Juste un regard, ça suffit. D'accord? Et donc, vous êtes celle qui construisait un peuple. À construisait envers et contre la culture ambiante qui veut perdre vos enfants, votre descendance, dans des choses païennes, qui veut des mariages mixtes. Quand je parle de mariage mixte, c'est pas d'un point de vue, c'est pas une question de race parce que, ou de peuple, parce que Dieu n'a aucun problème à ce que Ruth la Moabite devienne l'ancêtre de Jésus, etc. C'était un problème d'idolâtrie. Vous voyez, la femme étrangère, c'est celle qui est étrangère au plan de Dieu. L'homme étranger, c'est celui qui est étranger au plan de Dieu. Donc, je vais pas vous faire un dessin, vous comprenez de quoi on parle. Et donc, en Israël, vous avez ça de génération en génération, ce combat constant pour que le peuple reste le peuple de Dieu, que l'idolâtrie n'entre pas. Et vous avez plein d'histoires comme ça, intentionnellement, on pourrait passer la journée à discuter de ces choses, c'est très intéressant. Mais donc, Rebecca est appelée à construire un peuple. Maintenant, si Isaac sacrifie Rebecca pour sauver son peau, alors la promesse, tu peux toujours oublier. En fait, ce que Abraham et Isaac ont eu beaucoup de peine à comprendre, ça leur a pris quelques années, c'est que la bénédiction passait par leur épouse. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, je pense que cela a complètement compris encore, que la bénédiction, pour moi, passe par Élisabeth. Vous voyez? C'est un principe spirituel. Donc, encore une fois, en tant qu'ambassadeur, je vous dis un petit secret diplomatique, c'est que nous, les hommes, on a beaucoup de peine à comprendre ça, parce qu'on pense que c'est nous. Vous voyez, je veux dire, c'est pas même nous. Hein. Vous êtes là pour nous aider, mais c'est nous. Ben non. En fait, souvent, c'est l'inverse. La bénédiction devait passer par Sarah, et donc Abraham devait être au service de Sarah pour qu'elle puisse construire un peuple, Isaac au service de Rebecca pour qu'elle puisse construire un peuple avec son aide. Est-ce que vous suivez le... Je suis pas en train de dire que pas une question de qui est supérieur à qui, ça n'a rien à voir. C'est complètement accessoire comme... Enfin, c'est même pas accessoire, c'est inutile. Mais ce qui est important, c'est comment comprendre comment ça s'articule. Vous voyez? Et donc, la pression, c'est une pression culturelle. C'est la pression du péché. C'est la pression d'esprits impurs qui veulent détruire l'intégrité de la famille. Et puis, si vous transposez... Alors, les familles composent l'Église, et donc c'est vrai pour les familles. Et c'est tout à fait actuel, et c'est vrai pour l'Église. L'Église est soumise à une pression culturelle pour entrer dans une forme d'apostasie. Et donc, vous avez un danger pour l'Église aujourd'hui, un danger pour les familles, un danger pour la... Quelqu'un a dit, et vous le savez, que l'Église, elle est, comment dire, elle peut disparaître en une seule génération. Très facile. Il suffit que nos enfants perdent la foi, perdent, et puis il n'y a plus d'élite. Parce que nous, on n'est pas éternel. D'un point de vue des générations. Vous comprenez? Donc ça va très vite. Et regardez aujourd'hui où sont nos jeunes. Observez. Réfléchissons ensemble. Je parlais avec mon cousin Dominique en Suisse cet été. Et puis, il me racontait un peu ce qu'il vivait, etc. Il a un certain âge. Il représente une génération, il a fait beaucoup dans cette génération, il s'est beaucoup occupé de jeunes. Je lui dis, mais Dominique, alors j'ai dit ça parce que c'est mon cousin, je peux me permettre. Oui. Je lui dis, Dominique, dis-moi comment je peux t'aider, il faut qu'on réévangélise la Suisse. Il m'a pas dit non. Il m'a pas dit non, c'est pas la peine. Vous comprenez? On est à une génération de l'extinction de l'Église si on ne relève pas ce défi. Rebecca devait construire un peuple. Si Isaac sacrifie Rebecca, si on met, comment dire, on perd notre appel, et notre, comment dire, si on perd notre ADN, comme on dit souvent aujourd'hui, en parenthèse, ADN, juste un truc. Vous savez, ces leaders qui disent, bon, enfin, qui parlent de leur ADN, de leadership, et puis notre église, elle a tel et tel ADN, etc. Vous savez, c'est presque comme les chiens qui font pipi pour marquer leur territoire. C'est quoi cette histoire d'ADN? Le seul ADN qui nous intéresse, c'est celui de Jésus-Christ. C'est le seul qui nous intéresse. C'est l'ADN du royaume. OK? Donc, merci Seigneur pour les leaders, mais ce qu'on a besoin, c'est de l'ADN du royaume. C'est-à-dire, les 10 commandements, par exemple. Où est-ce qu'on en est par rapport aux 10 commandements aujourd'hui? Pensez-y. Où est-ce qu'on en est avec les 10 commandements? Est-ce qu'on les enseigne? Est-ce que la génération suivante les connaît? Est-ce qu'on sait comment les appliquer pour le monde d'aujourd'hui? C'est ça, aussi l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Oui. Donc, si vous voulez, ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est une orientation, je vous donne une orientation, et on va continuer après, il y a d'autres choses clés. Dans ce chapitre, on va voir jusqu'où on aura le temps d'aller, de Genèse 26, vous avez des clés, et j'aimerais vous donner une orientation des clés pour votre combat. Vous voyez? Parfois, nous combattons par rapport à des situations précises auxquelles on fait face, à des problèmes, et on a tendance à s'attaquer à ces problèmes qui sont là immédiatement devant nous, ce qui est normal. Vous voyez, je veux dire. Mais ce qui est beaucoup plus efficace dans la prière, c'est de viser plus loin que les problèmes qui nous paraissent évidents, de comprendre les enjeux spirituels, vous voyez. Et à ce moment-là, on va gagner des batailles plus grandes qui font que même ces problèmes qui nous entourent vont finalement, vous voyez, je veux dire, être résolus parce qu'on aura visé les bonnes orientations, si vous préférez. Et donc, il y a des clés que Dieu veut vous donner, nous donner aujourd'hui, pour les mois qui viennent. Donc, je vais vous donner du travail à faire. Je suis désolé, ce sera rafraîchissant, il y a quand même du travail à faire. Vous aurez du pain sur la planche, vous en avez déjà, vous savez beaucoup. Mais vous allez avoir du travail à faire, dans la prière, dans le combat, dans votre réseau de messagères, ok, et votre influence. Parce qu'il y a des enjeux qu'il ne faut pas perdre. Là, vous expliquez l'enjeu de Rebecca, et puis vous avez l'enjeu de l'engagement. Isaac a semé dans le pays. Pour un nomade, c'était pas évident de semer et de récolter. Mais l'engagement, de vraiment donner sa vie et de pas être. On a une génération aujourd'hui, je parle de mes enfants, qui est sans engagement. Vous voyez. Autrefois, on avait un métier toute sa vie. À l'église, on a connu des églises autrefois où les gens étaient membres toute leur vie dans la même église. C'était même pas une question. Vous voyez, on pouvait avoir un problème dans l'église, etc. Mais pour autant, on quittait jamais le bateau. C'était la famille. Ben, on était mariés, c'était pour la vie. Etc., etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Vous voyez? Je peux même faire un dessin. Donc, si vous voulez, on est dans une génération où l'engagement, c'est plus dans les valeurs normales. Même les jeunes s'étonnent quand ils voient des. Ah ouais, vous êtes mariés depuis tout ce temps-là. Ah. Vous voyez, c'est comme si on vient d'une autre galaxie. Donc là, il y a un défi spirituel. OK? Semer. Et puis, ensuite, et c'est Une troisième clé, c'est les puits à creuser. Une quatrième clé, c'est les... Alors, si vous voulez, prenons maintenant une question, changeons un peu, juste en conclusion de cette session, mais après on verra là-dessus, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de prendre trop de notes, je vous expliquerai les choses. Point. Si on veut tenir un pays, je parle au niveau économie, politique, etc., d'accord ? Si vous tenez les semences, vous tenez l'agriculture, oui. Isaac a semé dans le pays. Si vous tenez l'eau, la bataille de l'eau, on en parle beaucoup maintenant, vous avez remarqué ? Ça fait longtemps que des gens nous avertissaient. Et je me rappelle notre sœur du parc, on l'appelait Christiane, d'accord ? Que j'ai connue, bien connue quand j'étais pasteur en Billy, et qui avait combattu pour que dans sa commune, l'eau ne soit pas sur le réseau général, mais qu'elle reste l'eau de leur commune, d'accord ? Parce qu'elle avait compris les enjeux, déjà à l'époque. Vous voyez, comme c'est important. L'eau, si vous avez les semences, vous avez l'eau. Si vous avez Rebecca, c'est-à-dire l'éducation, bien vous tenez le pays. Avec ces trois choses, vous tenez un pays. L'éducation, l'agriculture et l'eau. Vous tenez le pays. Regardez aujourd'hui l'agriculture en France. Tous les paysans qui se suicident, les problèmes énormes qu'il y a. Regardez l'eau et regardez l'éducation. Et vous cochez toutes les cases. Oui. Et donc ça, c'est vrai sur le plan spirituel. On va voir tout à l'heure comment on applique ça et quels sont les vrais enjeux, si vous voulez. Et c'est l'enjeu de ces quatre persévérances. Parce qu'il y a aussi, on parlera aussi de la communion, enfin de la koinonia, de cet engagement les uns et les autres, qui fait aussi partie. Parce que l'alliance, la notion d'alliance aussi peut tenir un pays. S'il n'y a pas, c'est une quatrième chose, un quatrième point, d'accord ? Et on verra à la fin de chapitre 26 qu'il y a une alliance qui est faite, et c'est comme ça qu'un pays marche. Parce que sinon, on est les uns contre les autres, il y a des, comme en Libye ou des pays qui se font, un pays s'effondre, vous avez des différentes des choses tribales, et les gens se font la guerre les uns aux autres et c'est la fin d'un pays. Oui. Donc l'alliance aussi, c'est important. Okay. L'alliance aujourd'hui en France, c'est la République. Vous voyez, une sorte d'alliance autour de la République, mais on va parler bien sûr sur le plan spirituel. Donc c'est ces quatre points-là qui sont les quatre enjeux spirituels dont je vais vous parler et pour lesquels il faut prier pour l'Église et plus que l'Église pour notre région. Voyez. Mais si vous voulez, le combat que vous menez dans votre famille, prenons l'exemple de l'engagement par exemple. La semence, l'engagement. D'accord. L'engagement mari et femme, eh bien, s'il est tenu dans la prière, ça fera que l'Église pourra tenir dans son engagement à elle, et ça fera que le pays pourra tenir dans son engagement. Parce que c'est, vous voyez, on commence par la famille, ensuite il y a l'Église, ensuite il y a le pays. Ça marche comme ça. Donc tout est lié. Donc votre combat au niveau de votre famille, c'est un combat que vous menez en fait pour le pays. Sans savoir. Vous comprenez ? C'est vous qui êtes le ciment ou le... Oui, le ciment, quelque part. Vous voyez, qu'on ne voit pas dans la construction, mais sans ce ciment, tout s'écroule. Par votre prière, par votre persévérance. Il persévérait dans ces choses. Donc on va... Je ne vais pas vous en dire plus. C'était un petit peu l'introduction. Et puis ensuite, on va continuer. Donc, on prend une pause, je ne sais pas si vite, qu'est-ce que tu penses?
10 minutes.
Allez, on prend 10 minutes, d'accord?